Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Science Publique, Michel Albert Gonti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Tout au long de cette semaine, vous avez pu suivre dans Culture Science sur France Culture une série d'émissions consacrées à la préparation aux épreuves scientifiques du bac. Comme l'an dernier, Science Publique aborde aujourd'hui l'épreuve de physique-chimie et comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Physique-chimie, comment préparer l'épreuve du bac ? Alors que le débat sur la réforme du collège se poursuit, les élèves de terminale, eux, se préparent à passer l'épreuve du bac dans un peu moins d'un mois. C'est donc le moment de revenir sur les caractéristiques de cette épreuve qui a beaucoup évolué depuis la réforme de 2012, comme nous l'avions déjà précisé l'an dernier dans Sciences Publiques. Désormais, certains exercices se présentent sous la forme de problèmes extrêmement concrets, loin des cas d'école ou des approches théoriques. Deuxième grande caractéristique de cette épreuve, la fourniture de documents associés aux problèmes et qui contiennent la plupart des informations nécessaires à la résolution. Enfin, la méthode d'évaluation de la copie des élèves s'appuie sur 5 compétences, s'approprier, analyser, réaliser, valider et communiquer. Même si les coefficients différents affectés à ces compétences privilégient l'analyse et la réalisation, les 3 autres montrent l'importance accordée à la compréhension du problème et à son contexte. Pour l'élève, il ne s'agit plus d'appliquer simplement des formules, mais de se comporter en enquêteur qui suit une démarche scientifique pour résoudre un problème bien réel. C'est là tout l'intérêt de ce type d'épreuve. La réussite passe donc plus par une capacité à analyser le problème et à le comprendre que par le recours à des lois apprises par cœur. De plus, le caractère concret des exercices gomme souvent la frontière entre physique et chimie, une frontière que la réalité ignore souvent. Face à l'épreuve de physique-chimie du bac, quelles démarches les élèves doivent-ils adopter ? Combien de temps faut-il consacrer à la lecture et à l'analyse du problème posé ? Comment profiter au mieux des informations contenues dans les documents fournis ? Quelle importance prend la description de la démarche suivie ? Enfin, quel type de révision est adapté à la préparation de cette épreuve ? Pour répondre à ces questions, à partir d'exemples réels de problèmes posés au bac en 2014, nous recevons dans cette émission de Sciences Publiques enregistrée le 22 mai à la Maison de la Radio, Xavier Marliangeas, professeur de sciences physiques au lycée Diderot et professeur relais au musée des arts et métiers, qui a participé à notre émission sur la préparation au bac blanc le 23 janvier 2015. Nous retrouvons les deux enseignants présents lors de notre émission sur la préparation au bac 2014, Freddy Minck, professeur de physique-chimie au lycée Galilée à Gennevilliers, enseignant depuis 14 ans en zone d'éducation prioritaire en lycée et en post-bac, et Raphaël Spira, professeur de physique-chimie au lycée Montaigne à Paris et membre de l'UDPP. C'est l'Union des professeurs de physique-chimie. Et enfin, pour la première fois, nous recevons un élève de terminale, Damon Bigdeli, qui fait partie d'une classe de Raphaël Spira au lycée Montaigne. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Pour commencer cette émission et avant d'entrer dans l'analyse des problèmes sélectionnés par nos 3 professeurs, quelques mots sur la philosophie de cette épreuve afin de préciser la place que prend ce type d'exercice, le type d'exercice dont nous allons parler. Xavier Marliangeas, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment se présente cette épreuve de physique-chimie qui comprend donc plusieurs exercices différents ?
Alors, cette épreuve se présente de façon assez classique pour une partie, c'est-à-dire des questions un peu qui demandent des réponses assez courtes, et pour un exercice en particulier. Un autre type de réponse est demandé, donc à un développement d'une sorte de dissertation scientifique avec une question d'analyse de documents et de prise de décision scientifique qui peut être précédée par des questions préalables pour
encadrer un petit peu le sujet et préparer les élèves à cette analyse et synthèse de documents.
Comment sont répartis les points ? Il y a trois exercices qui sont proposés. Et avec des points, un nombre de points différents.
Voilà, donc de façon générale, cet exercice particulier peut être sur 5 points. Chaque exercice est autour de 5 points, 6 points. Et en gros, cette partie-là représente un tiers de la note globale.
Raphaël Spira, bonjour.
Bonjour.
Quelques mots peut-être sur la philosophie de cette épreuve particulière. Donc là, on va se concentrer sur un seul type de problème qui est le type de problème le plus intéressant. Faut pas le nier puisqu'il fait appel à justement une analyse et à autre chose que simplement une vérification de cours en fait. Alors pourquoi avoir créé ce type d'épreuve ?
Donc oui, c'est le type d'exercice qu'on appelle communément la résolution de problème. Donc ce sont des exercices où on apporte un certain nombre d'informations aux élèves sous forme de documents. Parfois trop d'informations d'ailleurs par rapport à ce dont ils ont besoin, parce qu'une de leurs des compétences qu'on évalue, c'est leur capacité à trier l'information, à extraire l'information qui convient. Et donc dans ce type de problème, en général, il peut y avoir quelques questions préliminaires, mais parfois il n'y en a pas et il y a une question. Et donc l'élève doit, dans cet exercice, extraire l'information et échafauder un raisonnement pour répondre à la question qu'on lui pose, en général avec des calculs et avec un raisonnement scientifique. Pourquoi on a mis en place ce type d'exercice ? Pour évaluer les élèves sur leur capacité à faire des hypothèses, à leur capacité à raisonner, leur capacité à aussi à se tromper et leur réaction face à la difficulté, disons. Il n'y a pas forcément une seule voie pour résoudre le problème. Alors, il ne faut pas se cacher que c'est une épreuve qui est très difficile pour les élèves, parce qu'ils n'ont pas forcément été habitués au cours de leur scolarité à ce type d'exercice. On essaye de plus en plus de les initier à la résolution de problèmes, au moins dès la classe de seconde. Mais c'est assez nouveau, hein, ça fait que la troisième année que ça existe. Beaucoup d'élèves ont de grosses difficultés. Et on s'efforce de leur dire que même s'ils n'ont pas la solution, il faut quand même qu'ils écrivent quelque chose sur leur copie, qu'ils ont forcément des idées, qu'ils savent forcément trouver les bonnes informations, et que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du problème qu'ils auront zéro à l'exercice. Puisqu'on va évaluer aussi la démarche.
Freddy Meng, bonjour.
Bonjour.
Alors cette nouvelle philosophie des épreuves que vient de nous préciser Raphaël Spira a provoqué des réactions. On en a parlé l'année dernière. Est-ce qu'aujourd'hui c'est terminé et est-ce que cette approche est définitivement acceptée ?
Définitivement, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'au moment d'une réforme, il y a toujours des réactions parce que ça bouscule des habitudes, ça les bouscule surtout pour les professeurs. L'élève, de toute façon, arrive dans un cycle d'études et il découvre tout. Mais je pense que vu la réaction des étudiants vis-à-vis de ces résolutions de problèmes, eh bien maintenant, il y a un véritable enthousiasme parce que chaque situation est différente. Ça fait appel, comme l'a dit Raphaël, à de la créativité. Et surtout, ça mobilise d'autres compétences que la compétence réalisée, c'est-à-dire faire des calculs ou des compétences beaucoup plus classiques qu'on avait. Et là, véritablement, on arrive à valoriser des étudiants en sciences qui finalement ne sont pas forts qu'en calcul et savent, par une démarche scientifique créative, arriver à développer tout un raisonnement et à répondre à une question qui n'est pas une question simple. Et comme il l'a dit très justement, avec une voix qui n'est pas forcément la voix attendue par le professeur.
Voilà, donc c'est tout l'intérêt. Et justement, on va avoir l'avis d'un élève qui est confronté à cette situation. Damon Bigdeli, bonjour.
Bonjour.
Par rapport à ce que disait Raphaël Spira sur le choc un peu de se retrouver confronté à ce type de problème, alors que dans la plupart du temps, lors des classes et des années précédentes, vous n'y avez pas été confronté. Comment ça se passe ? Comment vous réagissez au début ?
Au début, c'est vrai que c'est un peu déconcertant. On se retrouve face à une question ouverte. Des fois, on est un peu guidé par des questions préliminaires, mais certains sujets, on a juste une question comme ça. on cherche d'autres éléments. Et ensuite, en lisant les documents, on essaie de modéliser quelque chose, fabriquer un raisonnement. Au début, ça avait l'air un peu difficile, on ne savait pas trop comment gérer ça, mais finalement, on se rend compte rapidement que finalement, c'est plutôt plus avantageux par rapport à d'autres exercices où justement, on a, comme les professeurs le disaient tout à l'heure, qu'un seul chemin à suivre, c'est très couloir. Là, on a plusieurs façons de raisonner, et même si au final, on ne trouve pas forcément le bon résultat, nos initiatives et nos manières de raisonner sont toujours récompensées si elles sont logiques.
Est-ce que ça, vous me le disiez avant le début de l'émission, ça renvoie aussi au fait que cette démarche arrive très tardivement dans votre scolarité?
Oui, au collège surtout, on n'est pas du tout confronté à ce genre d'exercice. On nous donne souvent les formules comme ça. On nous demande de calculer sans vraiment trop se poser de questions. On travaille un peu comme des machines sans forcément se poser les bonnes questions. On nous donne des théorèmes sans forcément les comprendre. On les applique, on les comprend, on connaît les formules par cœur. Mais au final, même en terminale, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Et on le découvre en seconde, première. Certains exercices sont un peu plus ouverts, certaines questions. Par exemple, dans les contrôles de physique-chimie, on a toujours une dernière question, un peu bonus, qui nous interroge sur notre compréhension du sujet. Et là, on donne à peu près notre vision des choses, ce qu'on a compris, qui n'est pas forcément écrit dans le cours. Et là, en terminale, c'est vrai qu'être confronté à ça, alors qu'on nous a habitué à un autre type de raisonnement, c'est assez dépaysant au début.
Voilà, alors un dépaysement dont on va pouvoir mesurer l'ampleur en prenant des exemples. Et on va commencer justement par celui que nous a fourni Raphaël Spira, et qui est très révélateur de ce type d'approche. Je vais vous lire la question de cet exercice qui a été posé au bac en 2014 aux Antilles. Et la question est la suivante. Vérifier que le système de production électrique et les réservoirs attenants sont correctement proportionnés pour permettre le bon déroulement d'une mission de 14 jours comprenant un équipage de 3 astronautes, et tout ça dans la mission Apollo. Donc on ne peut pas trouver plus concret, plus aussi surprenant peut-être comme sujet, Raphaël Spira.
Effectivement, c'est un sujet qui est assez difficile parce que il y a énormément d'informations qui sont apportées à l'élève et il n'y a qu'une question. Alors, en plus, c'est un sujet qui fait appel à la physique, puisqu'il y a des notions de puissance, d'électricité, et puis à la chimie, puisqu'en fait, on va s'apercevoir au cours de l'exercice que l'alimentation électrique du module Apollo est faite par une pile à combustible. Donc ça associe les deux disciplines, physique et chimie, ce qui est plutôt intéressant, puisque là, du coup, l'élève voit que la frontière entre les deux branches des sciences physiques est assez ténue. Donc dans cet exercice, alors on a quatre documents qui sont apportés à l'élève. Un document qui décrit le module, ce qu'on appelle le module de commande du vaisseau Apollo, donc module dans lequel les astronautes séjournent. On explique quels sont les besoins électriques de ce module et quels sont les besoins en dioxygène et en eau des astronautes pendant leur mission.
Alors tout ça provient de Wikipédia, de la NASA, enfin de sources. Enfin tout ça est exact. Quoi,
du coup en préparant l'émission, là j'ai été voir justement sur Internet pour voir si effectivement il y avait. C'était notamment, on parle d'une mission de 14 jours, et donc j'ai été voir effectivement que la mission Apollo du 2 août 1971, ça correspond à la mission Apollo 15, qui a duré 259 heures, c'est-à-dire un peu plus de 10 jours. Donc ça paraît tout à fait réaliste de poser la question de savoir s'ils ont suffisamment de ressources pour 14 jours.
Un deuxième document sur le module de service, enfin la description donc déjà de la capsule elle-même, et ensuite deux documents, l'un sur les piles à combustible alcaline et le dernier sur le système de stockage cryogénique. Ça paraît une usine à gaz pour le coup, cet ensemble, pour arriver à rentrer là-dedans. On va peut-être se tourner d'ailleurs vers Damon Big Daily qui lui a fait l'exercice. Alors comment vous l'avez abordé?
Alors au tout début, en général, quand, quand l'élève va résoudre un exercice de ce genre-là, il va chercher les informations importantes. Donc bah, déjà dans l'énoncé, il essaie de comprendre où il va. Donc là, on veut savoir si, grosso modo, trois astronautes peuvent survivre à la mission Apollo pendant 14 jours. Donc là, on doit lire tous les documents, on doit ensuite faire le tri un peu. Et bah, par exemple, le document 1, notamment sur la structure de la fusée, on a un paquet d'informations comme ça. Et après avoir fait l'exercice, on se rend compte que c'est des informations superficielles, même inutiles pour la résolution de l'exercice. Et ça peut envoyer l'élève sur de fausses pistes. On part de bouclier thermique, de rentrée atmosphérique, alors qu'on n'a pas du tout besoin de ça pour réussir l'exercice. Et l'élève, déjà un peu peur en lisant le document. Et peut aussi être lancé sur de mauvaises pistes, peut-être. Après, on donne les besoins électriques, les besoins de l'équipage et... C'est séparé de telle manière à ce qu'on puisse différencier peut-être les informations utiles des moins utiles. Ensuite, donc, faut se familiariser un peu avec le nouveau vocabulaire, module de service, tout ça. Ça. C'est pas forcément des...
Voilà, c'est tout un univers quoi, dans lequel il faut, avec lequel il faut se familiariser. Je rappellerai quand même quelle est la durée de cette épreuve, parce que ça, c'est un élément important, j'imagine.
Donc, l'épreuve dure 3h30.
À Faespira.
L'épreuve dure 3h30 et cet exercice est noté sur 5 points, donc sur 20. C'est-à-dire que ça représente à peu près un quart du temps de l'épreuve. Donc cet exercice doit être fait en un peu moins d'une heure. C'est ça,
trois quarts d'heure.
Trois quarts d'heure, une heure. Quoi.
Ouais. Ce qui, dans ce cas précis, on verra que tous les sujets n'ont pas une telle ampleur, en fait, en termes d'univers dans lequel on est projeté. Mais là, il faut se familiariser avec beaucoup de notions.
Bien sûr, et c'est justement ça le défi, c'est qu'en très peu de temps, on doit être capable de réaliser ça. Et même si on devait passer le bac et qu'on tombait sur ce sujet, l'épreuve de spécialité rapporte moins de points que les autres épreuves. On n'aura pas forcément envie de consacrer plus de temps sur cet exercice qui nécessite visiblement plus de temps qu'un exercice de spécialité normal, courant. Et du coup, on aura tendance un peu à abandonner l'exercice, surtout devant cette masse d'informations qui ne nous parle pas forcément dès la première lecture.
Alors, quelle est la réaction peut-être de nos deux autres professeurs, Freddy Minck, sur ce type d'épreuve, là, sur Apollo et cette mission? C'est peut-être un des cas quand même un peu extrême du problème posé à un élève en terminale que de devoir répondre à une question sur un sujet aussi vaste en si peu de temps, au fond.
Oui, et je trouve que Damon analyse bien le sujet, a beaucoup de recul. C'est vrai qu'il y a la barrière du vocabulaire qui peut apparaître d'entrée. Et la première compétence, hein, vous parliez tout à l'heure de s'approprier, extraire l'information, trier l'information, c'est vrai que c'est une compétence qui est essentielle. Même si dans le barème, elle n'est pas évaluée avec le poids le plus important, on voit qu'ici, elle est décisive, puisque ce tri, s'il n'est pas fait, forcément, va décourager l'étudiant et va l'amener peut-être à laisser de côté cet exercice. Donc, c'est sûr qu'ici, on a une situation qui, pour l'appropriation, nécessite vraiment des compétences pointues et une bonne maîtrise de la langue française.
Xavier Merlangeas, si on peut craindre aussi que face à un problème de cette ampleur, la stratégie dont nous a parlé Damon Bigeli pousse à finalement dire « bon, mais non, là c'est trop, je vais faire les autres ». Parce qu'on a en fait le choix, on a la choix d'organiser son temps en le répartissant sur les trois exercices.
C'est vrai qu'on aurait tendance à penser que cet exercice est beaucoup plus difficile que les autres, alors qu'en fait, quand on regarde des annales, par exemple, et les réponses aux questions que les élèves peuvent consulter, évidemment, assez facilement pour la physique-chimie sur Internet, on se rend compte que les réponses qu'ils ont données ne sont pas si compliquées que ça. Il faut justement être assez méthodique, et c'est-à-dire reprendre un peu ce qu'on disait au niveau des étapes, observer, comprendre, agir. Et donc, il faut qu'il y ait dans cette... on prend un temps pour lire tranquillement le sujet, un temps pour...
Lire tranquillement quand on est dans l'épreuve du bac, ça va paraître surréaliste pour certains auditeurs.
Il faut être très méthodique et organiser son temps, dire bon, je prends 10 minutes vraiment pour être à fond là-dessus sans penser à autre chose et à lire ça tranquillement. Et ensuite, je fais mon brouillon. Donc, je ne commence pas à écrire, je comprends, j'essaye de voir vers où je vais. Et après, je passe à l'étape... Mais si on va dans tous les sens, effectivement, il faut être s'organiser soi-même. Il faut être vraiment, vraiment très méthodique par rapport à ça. Et ça marche. Après, il n'y a pas de raison. Cet exercice, finalement, n'est pas, à mon sens, plus compliqué que les autres. Les élèves disent souvent que c'est plus difficile. Mais une fois qu'ils l'ont fait, une fois qu'ils se sont exercés, ils ont dit, finalement, ce n'était pas la mer à boire. Et c'était même plutôt intéressant, parce que plus intéressant que... Parce qu'ils sont contents d'avoir réussi justement par eux-mêmes, des fois, à avoir trouvé le moyen d'arriver au but.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui autour de la question physique-chimie. Comment préparer l'épreuve du bac avec nos invités, Xavier Marlianjas, professeur de sciences physiques au lycée Diderot, Freddy Minck, professeur de physique-chimie au lycée Galilée à Gennevilliers, Raphaël Spira, professeur de physique-chimie au lycée Montaigne à Paris, et Damon Big Daily, élève de terminale dans une classe de Raphaël Spira au lycée Montaigne. Alors justement, peut-être un dernier mot sur cet exercice. Damon Big Daily, vous l'avez fait. Et combien de temps il vous a fallu? Vous avez une idée déjà de peut-être de ce qui serait passé si vous l'aviez choisi lors de l'épreuve du bac?
Alors, en classe avec... Il faut savoir qu'il y a un professeur aussi qui est là des fois pour nous épauler. Répondre
et moins de tension peut-être.
Oui, peut-être. Sachant que le prof nous aide, il faut quand même une bonne heure pour résoudre l'exercice. Et faut aussi, on a aussi un binôme qui nous aide. Sinon, bien sûr, quand on a fait la correction avec M. Spira, on s'est vite fait rendu compte que l'exercice, il n'était pas plus compliqué qu'un autre. Et quand on voit les réponses comme ça, on est... assez impressionné, on se dit que c'était pas si difficile que ça. Non, c'est vraiment le premier choc avec cet exercice qui impressionne. Et je pense justement, voilà, peut-être durant le bac, dans des conditions de stress aussi, il faut se dire, et comme c'est chronologiquement le dernier exercice qu'on attaque...
Il faut garder un petit peu de calme à ce stade-là. Après avoir un calme appliqué... quasiment d'astronaute, quoi, pour le coup. Parce que ça demande une grande maîtrise de soi.
Oui, c'est ça.
Après pour ne pas paniquer face à... Alors là, la difficulté, finalement, d'après ce que vous dites, c'est justement uniquement, essentiellement, la masse d'informations et le risque de s'y perdre.
Oui, clairement. Et après avoir attaqué deux exercices, où on a peut-être forcément pris plus de temps pour l'exercice que pour l'exercice qui vaut moins de points, se retrouver face à une masse d'informations comme ça et tout de suite avoir à trier, ça peut être très déconcertant et très difficile.
Alors, on va voir que tous les exercices ne sont pas de cette ampleur, qu'ils sont parfois plus centrés sur des thèmes plus précis. Et on va enchaîner avec un deuxième exercice, qui est celui que nous a apporté Xavier Marlianjas et qui concerne les tensioactifs et la dureté de l'eau. Alors, je vous laisse le soin de nous le présenter, Xavier Marlianjas, parce que les tensioactifs, c'est... Ce qui est amusant, c'est que le terme... Le texte initial, le titre plutôt, est assez compliqué, paraît peu transparent et heureusement, dès les premiers mots de l'explication, on fait référence au savon de Marseille qui, lui, est plus familier.
Exactement. Et la question qui est posée dans cet exercice, c'est lors du lavage du linge d'un bébé, vaut-il mieux utiliser du savon de Marseille ou un savon plus synthétique contenant un détergent qui s'appelle le dodécisulfate de sodium, qu'on appelle dans l'exercice le SDS, et en fonction justement de l'eau et de la dureté de l'eau dans la ville dans laquelle se situe ce problème. Donc la question, elle est très concrète. C'est d'ailleurs une question qui peut être prise après par les élèves en extérieur du bac, en disant, tu sais pas ce que j'ai appris le jour du bac, j'ai calculé et j'ai déterminé si le savon de Marseille ou le SDS était meilleur à telle ou telle concentration. Donc pour cela, nous avons différents documents. On rappelle justement sur l'action des tensioactifs. Donc c'est vraiment extrait d'une revue du Palais de la Découverte, donc quelque chose de l'ordre de la vulgarisation scientifique. Des données concrètes sur...
Un tensioactif, en deux mots.
Un tensioactif est une espèce chimique qui a une partie hydrophile, une partie hydrophobe, qui va pouvoir d'un côté se dissoudre dans l'eau, de l'autre côté se dissoudre dans la graisse. Ça peut donc soit être utilisé pour faire la vaisselle, soit être utilisé comme la moutarde par exemple pour faire une vinaigrette et faire tenir le vinaigre avec... avec l'huile. Donc, c'est donc une espèce avec une longue chaîne carbonée d'un côté et de l'autre côté, une partie ionique donc, qui est plutôt hydrophile. Document suivant, c'est une courbe de conductivité. Donc, puisqu'on va effectivement étudier pour différentes concentrations de SDS et de savon de Marseille, donc la conductivité, ainsi que un rappel sur la dureté de l'eau et puis des informations simplement sur la masse molaire. Finalement, il y a peu de documents et ici, bah, tous sont utiles.
C'est un peu le cas inverse de celui de la capsule Apollo. Là, c'est pas l'excès d'informations qui est la difficulté majeure. La difficulté majeure, vous la mettriez où? Alors là, on ne peut peut-être pas avoir autant l'avis de Damon Big Daily parce que vous ne l'avez pas fait cet exercice. On ne va pas vous le faire en direct pendant l'émission. Mais je vais peut-être vous donner quand même le sujet pour que vous ayez un œil dessus. Pendant que tous vous pourriez commenter un peu ce sujet en essayant d'isoler quels sont les points durs. Alors peut-être déjà, Xavier Merlingas, vous pouvez commencer et ensuite avoir le commentaire peut-être de Freddy Mink.
Alors il y a des choses, je pense, qui sont un petit peu difficiles à la base. C'est sur les concentrations molaires, les concentrations massiques. On a l'impression que c'est quelque chose que l'on fait, d'ailleurs on le fait depuis la seconde, mais c'est pas toujours très clair en terminale. Donc ça, faut bien être prêt à ça, être à l'aise pour passer de l'un à l'autre, savoir bien de quoi on parle, parce que dès qu'on va parler justement de titres hydrotimétriques, eh ben, il faut qu'on passe en concentration molaire, alors qu'on avait l'information sur la concentration massique, parce que dans la vie courante, la concentration massique est plus utilisée que la concentration molaire. Bon. Donc il faut être à l'aise sur ces petits changements. Du coup, ça permettra de ne pas être stressé sur cette partie-là pour pouvoir calculer notamment la concentration totale en ions calcium et ions magnésium, qui nous permettra de déterminer la dureté de l'eau. Je crois que la difficulté, elle est donc sur cette partie un peu technique, mais elle est aussi sur le fait qu'il faut bien se positionner donc selon la concentration qu'on va avoir de nos deux espèces, il y a des avantages et des inconvénients. Donc il faut bien comprendre qu'on se place à une dureté d'eau donnée, ainsi que voilà. Et donc il faut, et avec des concentrations qui ne sont pas très élevées.
Sans jamais oublier que le bébé est dans tout ça.
Voilà. Et donc, il faut voir que quand on va utiliser ces détergents sur le savon de Marseille, on ne va pas l'utiliser en grande concentration, justement. Parce qu'en grande concentration, on n'aura pas le même résultat. Il faut bien se mettre dans la situation de se dire que la concentration n'est finalement pas si élevée que ça. Et donc, pour ceci, voir quelle va être le... Donc, on ne va pas mettre beaucoup de lessive, justement, pour le bébé. Et donc, à ce moment-là, on va trouver que le savon de Marseille est plus efficace que le SDS. Mais à d'autres concentrations, dans d'autres cas de figure, ça aurait pu être différent. Mais donc en plus, vont s'ajouter...
Donc la réponse, c'est ça dépend.
La réponse, c'est ça dépend, mais vont s'ajouter aussi des qualités du savon de Marseille, évidemment, en plus.
Un commentaire peut-être de Freddy Mink sur cette épreuve-là.
Oui, mon collègue l'a rappelé, c'est vrai que la difficulté, elle apparaît souvent en physique-chimie pour les étudiants, c'est la connaissance des unités. Et là, typiquement dans ce sujet, on a une variété d'unités qui est importante. Si on regarde au départ, on a une concentration en mol par litre. Lorsqu'on arrive au document numéro 3, on parle de conductivité, on est en microsiemens par centimètre. Il parlait tout à l'heure de titres en grammes par litre. Et puis, à un moment donné, on parlait de titres hydrotimétriques. Donc, c'est vrai que là, il peut y avoir une crainte de la part de l'étudiant de se dire « Ouh là là, ces unités, je ne les ai pas révisées. Comment je vais m'en sortir ?» Et donc là, on voit un point quand même qui revient dans les sujets du baccalauréat. La bonne maîtrise, quand on a une formule, c'est de connaître les unités, savoir les appliquer de manière juste et sans hésitation.
Raphaël Spira.
Oui, alors ça va me permettre de revenir un petit peu sur le sujet Apollo, parce qu'en fait, dans cet exercice sur les tensioactifs, finalement, la question qu'on pose aux élèves est assez précise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, dans cet exercice, à faire l'effort de traduire la question, de la transformer pour pouvoir échafauder leur raisonnement. Alors que dans le sujet sur la mission Apollo, en fait, on leur demande si le système de production électrique et réservoir sont correctement proportionnés. Et il fallait absolument, pour qu'il puisse réussir cet exercice, qu'il traduise cette question en quel raisonnement je vais devoir faire pour répondre à la question. Et il fallait absolument qu'ils aient l'idée de raisonner en termes de besoins, quels sont les besoins des astronautes dans la capsule Apollo et quelles sont les réserves dont ils disposent, et comparer les deux. C'est pas du tout cette difficulté qu'on rencontre dans l'exercice sur les tensions actifs. Les difficultés sont beaucoup plus techniques dans l'exercice sur les tensions actifs, comme l'a dit Freddy Mink, sur les unités, sur l'utilisation de différents types de courbes, etc.
Alors justement, la réaction d'Abon Bigeli, qui a eu le temps de jeter un œil sur l'énoncé du problème.
Donc, après avoir survolé le sujet, ouais, effectivement, c'est déjà un exercice plus facile que celui de la mission Apollo. Après, c'est vrai que, comme disait mon professeur, Monsieur Spira, c'est un exercice qui est beaucoup plus ciblé que le premier. On a aussi des questions préliminaires qui peuvent quitter l'élève au début. Et là, oui, on nous demande clairement donc, de comparer donc, de concentration. Et on retrouve aussi, au long de l'exercice, qu'on n'avait pas forcément dans l'exercice sur Apollo, une courbe d'étalonnage, mais aussi des masses molaires, ce genre d'informations qui sont assez récurrentes dans d'autres exercices. Et en cours de spé physique-chimie, on est habitué à un certain mode opératoire et on retrouve donc les briques d'un raisonnement. Il ne nous reste plus qu'à enchaîner ensuite. On sait déjà un peu mieux où on va. Et donc les nouveaux termes introduits, tensioactifs, sont bien expliqués. Il y a un schéma aussi qui l'explique clairement. Cet exercice, oui, est certes beaucoup plus facile, mais peut-être ce qu'on peut lui reprocher par rapport à l'exercice sur la mission Apollo, c'est qu'il y a moins de recherche et d'orientation personnelle. Là, je pense qu'il est justement plus couloir que le premier.
Il est plus là, classique, peut-être,
oui,
en fait.
Plus classique. À vue de nez, je dirais qu'il y a deux façons différentes de réussir l'exercice, peut-être. C'est peut-être pas forcément l'esprit spé physique-chimie de la réforme, mais... Évidemment, si je tombe sur cet exercice au bac, bah, ce sera du pain béni, hein, je serai très content.
Oui, d'autant que vous appréciez particulièrement la chimie, ce qui n'est pas tout à fait banal. Hein, et donc là, c'est quand même, aussi, plutôt orienté chimie. Et on va voir notre dernier exercice, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de les traiter tous. Et on va rester dans le domaine de l'eau. Mais là, il n'y a plus de bébé dans l'histoire. Et simplement la question de la potabilité, Freddy Mink.
Oui, donc c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants qui vont aux États-Unis et qui doivent étudier la potabilité d'une eau. Il se trouve qu'il y a un composé qui s'appelle le paranitrophénol, qui est un composé organique et qui provoque un certain nombre de problèmes pour les personnes qui en ingéreraient une quantité trop excessive, ce qui fait qu'il y a des normes qui ont été fixées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'introduction, il nous explique que la Commission européenne fixe un taux maximal, une concentration maximale de paranitrophénol de 0,1 microgramme par litre, c'est-à-dire 10 puissance moins 7 grammes par litre. Par contre, l'agence américaine, elle, va tolérer au maximum 60 microgrammes par litre, c'est-à-dire une concentration 600 fois plus élevée. Et quand on arrive au Brésil, eh bien, là, on peut avoir une concentration de 100 microgrammes par litre, c'est-à-dire 1000 fois plus élevée qu'en Europe. Donc, la question qui est posée, c'est de tester cette eau du laboratoire aux États-Unis et de savoir si elle est potable ou non. Mais évidemment, aux États-Unis.
Voilà, en pouvant comparer ensuite le résultat aux normes des autres pays.
Exactement.
Quelle est la difficulté là, particulière ? Est-ce qu'on peut situer cet exercice par rapport aux deux précédents ? Est-ce qu'il est peut-être plus proche quand même du second termes de focalisation sur une question très précise ?
Oui, là d'entrée, la question nous amène à déterminer une valeur de concentration et de comparer cette valeur aux normes qui sont fixées aux États-Unis. Donc l'objectif pour l'élève, c'est de trouver la concentration en paranitrophénol qu'il y a dans cette eau. Et s'il trouve une valeur inférieure à 60 microgrammes par litre, il considérera qu'elle est potable. Et si c'est supérieur, elle n'est pas potable aux États-Unis.
Oui, allez-y.
Là où je voulais revenir, peut-être on n'a pas assez insisté, c'est que c'est vrai qu'une lecture de cette introduction et cette question qui arrive peut nous laisser penser que l'exercice est très très difficile, et j'aimerais insister sur le rôle des questions préliminaires où véritablement on va aider l'étudiant à aller chercher l'information.
Oui, ça amorce un peu le raisonnement.
Ça amorce le raisonnement, ça le met sur la piste, et il faut vraiment attacher beaucoup d'importance à ces questions préalables, en tenir compte parce qu'il y a une orientation qui est donnée, c'est un coup de pouce qui va permettre justement de dénouer la démarche scientifique.
Xavier Marlien-Jas, sur cet exercice, un commentaire ?
Cet exercice, pour moi aussi, il est typique un peu de ce qui tombe. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté peut-être de l'exercice sur Apollo peut arriver, mais des exercices, disons, où on reconnaît assez facilement les démarches qu'on a faites dans des exercices plus simples, on fait les calculs en fait que l'on a l'habitude de faire. Donc, il suffit de le remettre dans un contexte de ce qu'on pourrait appeler une tâche complexe, donc quelque chose où il faut reconnaître justement les tâches simples à faire à l'intérieur de cette tâche complexe. Pour moi, c'est vraiment un exercice aussi typique de ce qui est posé et qui est vraiment dans l'esprit de mettre en application concrète tout ce que l'on a vu depuis la cinquième en physique-chimie.
Raphaël Spira, même question. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport peut-être pour essayer de classer un peu ces trois exercices les uns par rapport aux autres ?
Disons que dans cet exercice, il y a beaucoup moins d'informations que dans les deux autres. D'ailleurs, il ne fait que deux pages. Mais je pense qu'il est aussi difficile parce que le raisonnement que doit faire l'élève est assez complexe. Il y a tout un cheminement qu'il doit réussir à inventer pour utiliser toutes les informations qu'on lui donne. Donc, je ne sais pas si c'est difficile de comparer les exercices entre eux. Je crois que cet exercice sur l'eau potable, on l'a posé dans mon lycée, donc au lycée Montaigne, au bac blanc, justement. En général, les élèves ont soit réussi à le faire, et donc ils ont une bonne note, soit ils n'ont rien écrit du tout. C'est-à-dire que là, on voit vraiment la difficulté pour les élèves de se lancer et d'écrire des choses, même si, je le répète, ils ne vont pas forcément arriver jusqu'au résultat final.
Ça veut dire que là, il n'y a pas de questions préliminaires.
Si, alors les élèves ont répondu uniquement aux questions préliminaires, mais n'ont pas répondu au reste. Or, quand on regarde les barèmes qui sont appliqués au bac, les questions préliminaires comptent pour très peu dans la note. Sur les 5 points, il y a un point pour les questions préliminaires et 4 points pour le raisonnement complexe, pour la tâche complexe.
Damon Bigdeli, vous l'aviez fait cet exercice ?
Oui, il se trouve que...
On tombe sur un autre exercice que vous avez fait. Alors, comment vous l'avez abordé et...
Alors, j'ai eu 4 sur 5 à l'exercice. Donc, je pense que c'est plutôt un bon score. Oui, donc je me souviens, cet exercice m'avait fait très peur, justement. Je pensais que c'était justement l'exercice que je n'avais pas réussi. Parce qu'au début, donc là encore, c'est des calculs de concentration. C'est un problème qu'on retrouve tout le temps. C'est dans les unités et aussi dans la dilution. Parce que là, c'est des étudiants qui prélèvent une eau, ils la diluent, ils la récupèrent, ils manipulent plusieurs fois l'eau, il ne faut pas se perdre dans ce genre d'unité. Donc les questions préliminaires sont toujours là pour nous guider. Après, c'est... même sans les avoir réussies, j'avais réussi à faire un bon raisonnement. Ce qui est très intéressant aussi dans ce genre d'exercice, comme tous les exercices de spécialité, on n'a pas besoin de connaissances supplémentaires par rapport au programme de physique-chimie. Et donc, lorsque j'avais résolu cet exercice, ce qui a été très intéressant, c'est que je n'ai pas forcément procédé de la même manière. Je n'ai pas du tout utilisé les absorbances, j'ai raisonné en masse molaire, justement. Et alors qu'on ne nous donne aucune masse molaire dans l'exercice. Et au final, je m'en suis sorti. Je ne sais pas si les élèves en ont fait autant, mais s'il y en a qui ont réussi de telle manière, ça a pu bien se passer. Après, les problèmes d'exercice, oui, c'est des notions comme la dilution, les concentrations... Et peut-être aussi le pH, le fait qu'on utilise une solution tampon.
Alors pourquoi vous avez eu que 4 sur 5 hein ?
4 sur 5, c'est les questions préliminaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que le PNP, parce qu'au tout début, il disait que c'était... il y avait des températures d'ébullition, de fusion, et je pensais qu'en fait le PNP était sous forme solide dans l'eau.
Quelle erreur !
Ça m'a pas...
Bon, heureusement, visiblement, vous avez mieux réussi dans les questions.
Ouais, ça ne va pas pénaliser au final.
Principal.
Mais voilà, c'était le stress, c'était le dernier exercice. Ça arrive de faire des erreurs.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
Notre sujet d'aujourd'hui est autour de la question physique-chimie, comment préparer l'épreuve du bac, avec nos invités Xavier Marlianjas, professeur de physique, de sciences physiques au lycée Diderot, Freddy Minck, professeur de physique-chimie au lycée Galilée à Gennevilliers, Raphaël Spira, professeur de physique-chimie au lycée Montaigne à Paris, et Damon Bigelli, élève de terminale dans une classe de Raphaël Spira au lycée Montaigne. Donc on a balayé trois exercices en finalement assez peu de temps, mais on ne les a pas résolus véritablement. On a été très en survol, mais je pense que ça donne une assez bonne idée de ce que représente ce type d'exercice, ce type d'épreuve, où finalement le spectre peut être différent, enfin en termes d'univers dans lequel on est projeté. Avec l'exemple d'Apollo, on a un peu le maximum qu'on peut imaginer, c'est-à-dire essayer de comprendre comme ça, au milieu d'une épreuve de bac, comment fonctionne un module Apollo, les différentes composantes, la pile à combustible qui l'alimente, des choses qui ne sont pas très familières forcément à tout le monde, et ensuite répondre à une question très précise sur les besoins ou la capacité des astronautes à survivre pendant 14 jours à l'intérieur. Mais les autres sont plus précis, mais à chaque fois, il faut quand même, et ça on va le répéter parce que c'est sans doute très important, passer du temps à la compréhension, à l'immersion dans le sujet. Vous parliez de 10 minutes à lire. Qui le disait? C'était vous, Xavier Marlianjas. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a un consensus autour de ce temps? Freddy Minck, par exemple.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la même approche que pour un exercice où la première question serait très précise de déterminer une concentration molaire à partir d'une quantité de matière et d'un volume, où on applique la formule, application numérique, on donne le résultat. Et puis, si vous voulez, il n'y a pas de temps d'arrêt. Un étudiant qui s'est bien préparé, qui a bien bachoté, il va le faire sans interruption. Là, typiquement, il faut accepter qu'il y ait un petit quart d'heure. Vous parliez de 10 minutes, un petit quart d'heure.
Ça grossit, hein.
Oui,
ça...
mais au calme, surtout. Et c'est là où je trouve qu'il ne faut surtout pas perdre ses moyens. Et ce n'est pas du tout la même approche. Il y a dans cette épreuve un temps qui est un temps qui est incompressible, un temps d'extraction, un temps de lecture. Moi, je conseille toujours aux étudiants de surligner pour ne pas avoir à relire plusieurs fois et de voir quelle information va nous servir. Et si ce temps est fait au calme, sans se mettre à stresser parce que ça fait un quart d'heure qu'on n'a toujours rien rédigé sur la copie, eh bien, à ce moment-là, on va voir de manière beaucoup plus précise quel sera le cheminement qui nous permettra de répondre à ce problème.
Raphaël Spira, même conseil ou bien...
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Freddy. Je crois qu'il faut vraiment consacrer ce temps à l'appropriation du sujet, à s'imprégner du sujet et à surtout essayer de comprendre ce qu'on nous demande. Parce que ce n'est pas toujours évident de savoir, à partir des informations qu'on a, comment on va réussir à répondre à cette question et qu'est-ce qu'on nous demande vraiment. Donc il faut, à la limite, un élève qui aurait... compris la question, compris le raisonnement, qui aurait eu la bonne démarche, mais qui se serait trompé dans des calculs ou qui n'aurait pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de tous les calculs, peut avoir peut-être pas la note maximale, mais quasiment la note maximale. Donc c'est vraiment la démarche qui est valorisée dans ce genre d'exercice.
Donc ça veut dire que le résultat final compte pour, j'allais dire du beurre, pas tout à fait, mais pour une... proportion minimale de la note.
Oui, c'est-à-dire que quand il y a tout un enchaînement dans un raisonnement et que dans un des maillons de ce raisonnement, l'élève s'est trompé sur une unité ou sur une conversion ou il a fait une erreur de calcul, on ne va pas le sanctionner s'il a été jusqu'au bout de la démarche. Donc il peut avoir la note dans les barèmes, vraiment, il peut avoir 5 sur 5, même si le résultat final est faux.
Xavier Marlianjas, ça c'est peut-être ça qui est difficile aussi à comprendre par les élèves qui doivent être un peu obsédés par le fait de trouver le résultat.
C'est ça exactement, c'est comme on prépare une bataille, il faut prendre un peu de recul et réfléchir par où on va passer ou comme on prépare une séance de bridge aussi où on va essayer de voir un peu dans quel ordre on va prendre les choses. Donc il faut garder du temps incompressible effectivement pour préparer cela et puis... en relisant tranquillement les documents, des fois, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui fait tilt. On dit « Ah, voilà, je sais pourquoi on m'a mis ce document. On veut me faire aller par là, alors qu'on ne l'avait peut-être pas vu au premier tour, etc. » Et on serait parti dans
dans des directions qui auraient été fausses si on n'avait pas pris ce temps vraiment incompressible. Donc, c'est vraiment du temps gagné pour la suite plutôt que de partir dans de mauvaises directions et puis de déchirer la feuille et de repartir sur autre chose. Et là, la panique va arriver, justement.
Damon Bigley, est-ce que c'est ça qui se produit dans la réalité ? Comment vous abordez ce type d'épreuve ? Est-ce que vous consacrez 10 minutes, un quart d'heure à la lecture avant de vous lancer ?
Ça, encore une fois, ça dépend du temps qu'on a passé sur les précédents exercices, mais c'est vrai qu'à tort, on a tendance à oublier donc, ce temps de lecture qui est recommandé par tous les professeurs et à se précipiter donc, sur le graphique, le tableau avec les valeurs et procéder un peu comme on nous a appris à procéder au collège et début lycée. Mais effectivement, pour l'élève moyen en spé physique chimie, qui n'a pas besoin de connaissances supplémentaires par rapport au programme de physique chimie, toutes les réponses et tout le raisonnement, finalement, on le trouve dans le document. Donc il faut vraiment exploiter tout ce qu'on peut trouver sans s'attarder sur les éléments inutiles. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on peut établir un raisonnement. Et après, même si, au final, on se trompe dans le raisonnement, on comprend, en faisant des calculs, peut-être qu'on a fait un mauvais raisonnement, les correcteurs nous notent aussi sur notre esprit critique. On peut aussi critiquer le fait et justifier le fait qu'on n'ait pas trouvé les bons résultats, parce qu'on n'a pas forcément fait ci, fait ça. Et ça encore, les correcteurs le prennent en compte. Et il faudrait peut-être que les élèves aussi...
Le sachent.
Le sachent, oui. Mmh. Pour qu'ils ne paniquent pas et qu'ils essayent quand même de se lancer.
Alors, il y a une autre... Là, on a parlé de cette préparation, de ce temps d'appropriation. Il y a également la communication, qui est une chose qui nous intéresse particulièrement. C'est-à-dire que ces exercices mettent l'accent sur la capacité de l'élève à expliquer ce qu'il a fait, à commenter sa démarche, à être un peu dans un exercice qui a plus à voir peut-être avec le français qu'avec la physique-chimie, Raphaël Spira.
Oui, tout à fait. On évalue leur capacité à rédiger un raisonnement en faisant des phrases, en faisant des calculs, mais pas seulement des calculs. On voit trop souvent des copies d'élèves qui se lancent peine perdue en appliquant des formules, parce qu'ils voient des chiffres dans les documents. Donc ils
appliquent c'est parce
des
qu'on formules. Les a un peu habitués aussi à faire
oui,
ça.
Oui, on
peut-être.
Les a habitués. Il faut qu'ils fassent l'effort de rédiger... Leur raisonnement, leur copie. Pourquoi on les évalue là-dessus ? Parce qu'on considère que, ensuite, quand ils feront un métier scientifique, ils auront à rédiger des choses, à expliquer ce qu'ils font, à l'oral ou à l'écrit. Donc il faut qu'ils apprennent à le faire.
Voilà, le littéraire les rattrape, alors que malgré leur choix. Freddy Mink, vous ressentez ça, enfin vos élèves, avec vos élèves, c'est une difficulté particulière ?
Oui, la communication à l'écrit, c'est essentiel. Et je dirais que le point faible qu'on peut retrouver de temps en temps, c'est cette incapacité à avoir un esprit succinct et une rédaction courte pour faire passer un message. Souvent, les étudiants perdent du temps à rédiger des pages et des pages. Finalement, le correcteur se perd aussi dans leur raisonnement. Et là encore, je me dis que faire un petit brouillon, faire quelques phrases succinctes et ensuite avoir une rédaction la plus courte et la plus claire possible apportera forcément beaucoup de bonnes choses pour leur réussite.
Donc vous craignez en fait l'excès inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on leur demande d'expliciter et du coup on se relance dans une dissertation démesuré par rapport à ce qui est nécessaire. Xavier Merlangas, vous aussi, vous notez une difficulté particulière pour que les élèves trouvent la bonne distance par rapport à cette exigence de commentaires.
Oui, tout à fait. Et moi, je crois que c'est en amont, quand on les interroge durant l'année, même les années précédentes, où on leur demande à l'oral déjà d'expliquer les choses, où... certains ne veulent pas forcément, ils ont peur de se tromper, surtout devant les camarades, c'est pas évident. Et pourtant, il le faut. Il faut se lancer, il faut essayer. Parce que l'exercice justement qu'on a fait en amont, sur des choses simples, donner un raisonnement dans l'ordre, c'est ça qu'on évalue. à cette, dans cette épreuve. Donc il faut, lorsque le professeur s'efforce de poser la question, qui veut expliquer, qui veut le reprendre, etc., il faut être volontaire pour le faire. Parce que ça, c'est la formation aussi pour cette type d'épreuve-là au bac. Après, on se rend bien compte que si les camarades n'ont pas compris, c'est qu'on n'a pas été très clair. Ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Hein. Donc quand c'est bien compris, ça doit être efficace, clair, et ça ne peut pas venir comme ceci en un jour, quoi, donc le jour du bac. Donc, c'est-à-dire qu'en amont, il faut s'exercer dans les bacs blancs, dans les exercices, mais il faut s'exercer aussi à l'oral, en classe, même depuis le collège, depuis les petites classes. Quand on propose d'expliquer, commencer, c'est vouloir expliquer un phénomène, même si on va se tromper. Forcément, probablement, l'élève va se tromper, va faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. D'autres vont corriger, le professeur va corriger, mais il faut absolument entrer dans cette démarche-là.
Damon Bigdaly, est-ce que ça a un écho pour vous, ce discours? Est-ce que c'est ce qui se passe dans la réalité? Est-ce que vous avez pratiqué la communication de ce type dès le collège?
Il faut aussi savoir que derrière chaque élève, il y a un certain comportement, il y a des élèves plus timides que les autres. Et souvent, on a peur de la réaction des autres. Justement, il faut savoir affronter ça. Même quand on a la bonne réponse, on est toujours sûr à 90% que ce qu'on va dire, c'est faux. Du coup, on n'a pas envie de se vautrer devant les camarades et subir leurs moqueries, leurs brimades, tout ça. Donc souvent, on préfère se taire parce que le professeur va expliquer de toute manière. Mais c'est vrai que justement, c'est hyper important de participer, de lever la main et de proposer son explication. Parce qu'on s'entend aussi parler, on s'entend aussi raisonner. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en contrôle et ce qu'on écrit sur une feuille. Il faut déjà, avant d'écrire quelque chose, il faut penser à ce qu'on va écrire. Et participer, c'est un bon moyen de réfléchir comme ça.
Est-ce que ça, c'est un peu en dehors du sujet de cette émission, mais est-ce que ce n'est pas révélateur quand même d'un problème assez français, qui est la difficulté pour les élèves à se lancer, à s'exprimer en public, à prendre ce risque? Quand vous dites qu'un élève qui veut prendre la parole est sûr à 90% que ce qu'il va dire est faux, je ne suis pas sûr que si on posait la question à un Américain, il ait la même sensation. Et ça, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a créé cette sensation dans l'esprit des élèves en France. Freddy Mac, vous avez une explication?
Moi, je vois dans mes pratiques personnelles que c'est suite à une inspection où j'ai vraiment changé mes méthodes. On m'avait reproché de garder trop la main sur la parole, la prise de parole. Et finalement, les étudiants répondaient, mais ne répondaient qu'à moi. Et c'est vrai que j'ai changé ma manière de faire. Je fais en sorte qu'ils communiquent entre eux le plus possible. Le travail d'équipe, le travail en groupe, la communication en groupe, un groupe vis-à-vis d'un autre groupe. Et entre pairs, véritablement, ils sont beaucoup plus à l'aise. Et il y a moins cette gêne dont parlait ce jeune homme. Il y a véritablement un travail important à faire sur la communication.
D'autres expériences de ce type, Raphaël Spira?
Disons que je pense que c'est des compétences qui se travaillent depuis l'école primaire et que c'est en train de changer parce qu'on s'est aperçu effectivement dans certaines enquêtes internationales que les Français ont du mal à se lancer, à s'exprimer, à communiquer sur ce qu'ils font. Donc il y a de plus en plus d'expériences, d'expérimentation d'enseignants, notamment de classes inversées, c'est-à-dire où finalement les enfants ou les élèves ont le cours, les connaissances à la maison, sous forme de vidéos ou sous forme de documents. Et en classe, c'est uniquement des activités en groupe, où les élèves discutent entre eux.
Ah, le cours n'a plus lieu pendant le cours.
C'est la classe inversée, c'est-à-dire que le cours, il se fait à la maison, et les exercices et les applications se font en classe. C'est-à-dire c'est l'inverse de ce qui se faisait auparavant. Et donc je pense que c'est des méthodes qui sont pour l'instant... pas du tout généralisés, mais qui sont expérimentés de plus en plus par les enseignants à tous les niveaux, jusqu'au lycée, et qui peuvent justement favoriser l'initiative de l'élève et sa capacité à communiquer avec les autres aussi.
Peut-être un mot pour terminer cette émission sur la stratégie adoptée vis-à-vis de cet exercice. J'ai l'impression, en entendant Damon Bigdaly, que c'est l'exercice qu'on fait en dernier dans le planning, finalement, de ces 3h30 d'épreuve. Est-ce que c'est obligatoirement le dernier ou est-ce que c'est un choix que font majoritairement les élèves?
Après, c'est une stratégie, mais là encore, c'est par rapport au barème. C'est l'exercice qui vaut le moins de points. Ce ne sera pas forcément le plus facile ni le plus dur. Donc, on l'attaque souvent en dernier. Après, ce n'est pas une stratégie universelle. Hein, c'est...
Mais il y a des chances que ça soit celle qui est partagée par beaucoup d'élèves. Xavier Marlingas, comment vous le sentez ? C'est plutôt ça qui se passe, en fait. On le fait en dernier et finalement, on a quand même gardé le plus complexe pour la fin.
Peut-être, oui. Il me semble que la majorité des élèves font les exercices dans l'ordre dans lequel ils sont posés. Et comme il est régulièrement posé, peut-être en exercice 3, 4, donc ils le font à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a une stratégie
volontaire. En fait. Oui, en même temps, il faut garder son calme. Donc, juste après avoir fait deux exercices pour aborder celui-là avec une sérénité totale, Raphaël Spira.
Mais ce qu'on peut conseiller à un élève qui va passer le bac dans moins d'un mois, c'est de regarder tous les exercices qu'on lui propose avant de commencer à les traiter, parce qu'il peut se trouver que l'exercice de spécialité qui a beau être le dernier, il a déjà étudié ce problème, voilà. Il connaît le sujet, et donc il pourra peut-être le faire plus facilement que les autres.
Voilà, donc pas attendre de la fin de l'épreuve pour découvrir le troisième
exercice. Passer 5 minutes au début pour aller feuilleter tout le sujet qui fait une dizaine de pages pour choisir les exercices qu'on va faire en premier.
Et bien sur ce dernier conseil, Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Xavier Marlingas, Freddy Minck, Raphaël Spira et Damon Bigdeli d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez des liens avec les épreuves que nous avons, les sujets et les corrigés des exercices dont nous avons parlé aujourd'hui. Sur notre site, vous pouvez également réécouter cette émission pendant 1 000 jours et la podcaster pendant 1 an. Et bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 5 juin, Sciences Publiques participera aux 24 heures sur le climat organisées par France Culture. Pour notre part, nous tenterons d'y voir plus clair dans les progrès réalisés par les climatologues en matière de prévision des évolutions climatiques. Ce sont les prévisions à moyen terme, c'est-à-dire à 10, 20 ou 30 ans, qui semblent les plus problématiques. Or, ce sont elles qui sont aussi les plus utiles aux décideurs pour orienter des investissements ou prendre des mesures. Nous ferons donc le point sur ce que les chercheurs nomment la prévision décennale. Sciences Publiques, Dany Journeau, Manuel Couturier, Marie Dalquier, Michel Alberganti, nous vous laissons en compagnie des bonnes feuilles. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture.